Bienvenue dans Croissance Multiple, le podcast à destination des femmes, qu'elles soient salariées ou indépendantes, qui désirent amener plus de sens, d'authenticité et d'alignement dans leur vie personnelle et professionnelle. Je m'appelle Katia, je suis coach, spécialiste en connaissance de soi, activatrice de changement et podcasteuse. Chaque mercredi, le temps d'une saison, retrouve un nouvel épisode de Croissance Multiple. Avec ce podcast, je pose plusieurs intentions. Éveiller ta conscience pour faciliter les déclics du changement par une meilleure connaissance de soi, t'aider à mieux vivre avec toi-même et les autres, partager ensemble un moment agréable dans lequel tu te développes, tu te sens en confiance et sereine. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur Croissance Multiple. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Hervé dans ce nouvel épisode. Alors, lorsque j'ai rencontré Stéphanie à Paris lors de l'événement de Martin Tulip, j'ai ressenti immédiatement cette connexion énergétique et mon sacral et mon splénique, on parle un peu du human design ici, validaient totalement cette rencontre. Stéphanie, elle est issue d'une lignée de guérisseurs. Elle a été initiée dès l'enfance par sa grand-mère. C'est à la suite de deux événements qui ont transformé sa vie avec un grand V. Le premier, en 2004, alors qu'elle se trouvait en Thaïlande, elle s'est sentie mourir suite à une appendice péritonite. Et puis en 2011, le jour qui aurait dû être le plus beau de sa vie, ce moment où l'on a déposé son fils Gabriel dans ses bras, a été en réalité le plus douloureux. Gabriel était sans vie. À la suite de ces deux événements, Stéphanie a donné un autre sens, un nouveau sens à sa vie. En tant que maman d'un ange, mamange, comme elle aime le dire, elle a créé l'association Gabriel, qui soutient des milliers d'enfants au Vietnam et en Inde, et également en France. Stéphanie se rend d'ailleurs régulièrement dans ces pays pour offrir attention, tendresse, amour et soin. Et puis Stéphanie est une éveilleuse de conscience. Elle amène les personnes qu'elle accompagne à vibrer l'amour et se connecter à soi, se connecter à elle-même. Pour cela, elle utilise la pleine conscience, la méditation, l'hypnose, les fleurs de Bach, les sons et également différentes techniques de massage. En Human Design, car j'ai eu le privilège et la joie de faire la lecture de son Human Design, Stéphanie appartient au type Manifesting Generator. Il est donc tout à fait normal pour elle de mener plusieurs projets en parallèle. C'est pour ça qu'elle organise des retraites de méditation, elle accompagne au deuil périnatal, elle crée des objets comme des peintures vibratoires, des cristals d'harmonisation. Elle a également co-créé un magnifique oracle qui s'appelle Souffle de vie, oracle qui porte également le nom de son premier livre, Souffle de vie. Stéphanie, bienvenue sur Croissance Multiple. Souhaites-tu ajouter des précisions à cette présentation ?
Bonjour Katia, bonjour à toutes et à tous. Waouh ! Je t'écoutais, j'étais en train de me découvrir finalement et non, j'ai rien à ajouter, merci infiniment. C'est un beau cadeau que tu me fais.
Avec grand, grand plaisir. Alors, sur cette deuxième saison, le thème, c'est la connexion à soi et c'était pour moi comme une évidence de te faire intervenir car je suis convaincue qu'au travers justement tes différentes expériences de vie, tu peux éclairer les autres. Alors, tout d'abord, j'aimerais que tu nous partages ta devise ou ton mantra, enfin, on l'appellera comme on veut, mais je sais que tu en as un beau et assez, je trouve, percutant et impactant.
Oui, j'aime bien dire que derrière chaque événement, chaque épreuve, il y a un cadeau, même si au départ, il nous semble mal emballé, parce qu'il faut prendre le temps voilà, de l'ouvrir et de le découvrir. Mais il y a toujours un cadeau derrière nos épreuves. Et c'est la connaissance de soi finalement, de s'aimer de plus en plus, d'aimer la vie, d'aimer les autres. Donc voilà, bah, c'est d'aller voir en fait quel est notre cadeau ou quels sont nos cadeaux.
Super. Ouais, je pense que c'était. Enfin, moi, je trouvais important qu'on pose ces mots et les mots que tu aimes dire sur cette devise. Alors, la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est pour toi, c'est quoi la connexion à soi, puisque c'est le thème de cette deuxième saison. Et donc, est-ce que tu peux me partager pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière la connexion à soi?
Pour moi, c'est déjà apprendre à se connaître. Derrière les conditionnements, les croyances, les masques, les rôles que l'on joue, apprendre vraiment à plonger à l'intérieur de nous pour savoir qui l'on est vraiment. Donc, ça demande tout un travail d'observation, mais aussi d'être dans sa vérité, de se libérer. Voilà, mais pour moi, c'est ça. Se connecter à soi, c'est... On verra qu'il y a une connexion à l'instant présent qui est essentielle pour faire ça, mais c'est la connaissance de soi, c'est l'amour de soi, c'est voilà, à toucher en fait notre être véritable.
Et du coup, au travers de ta présentation, on a vu que tu as eu effectivement différentes expériences de vie, ce qui t'a amené, et tu l'expliques, à vivre finalement en une vie plusieurs vies. Quelle a été pour toi l'expérience qui t'a permise, au travers justement de ces événements douloureux que tu as vécu, de te connecter à toi, de te connecter à la vie?
Alors, les deux événements que tu as cités tout à l'heure ont participé. Forcément, le premier m'a mis en contact avec la vie, la mort. Donc, j'ai commencé à me poser des questions sur moi, sur le sens de ma vie, sur la spiritualité en général. Et le deuxième événement, bien sûr, Gabriel a fait sauter beaucoup de cadenas, de barrages que j'avais. Donc, les deux ont participé à cette ouverture.
Et est-ce qu'il y a eu une méthode, un outil qui, parce qu'on entend aussi au travers de ces événements, à un moment donné, un effondrement aussi, hein, ce qui est humainement tout à fait normal. Qu'est-ce qui t'a permis de reprendre pied à la suite de ces événements, justement, quelles ont été ou quelle a été l'expérience qui t'a permis de te reconnecter finalement à toi, puisque suite à ces événements, tu étais peut-être, et tu me diras si je me trompe, mais déconnecté, parce que émotionnellement, notre cœur est tellement blessé que est-ce qu'on est vraiment encore connecté à soi ou pas? Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de te reconnecter à toi et de te reconnecter à avoir envie de vivre?
Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, je pense que j'étais déconnectée avant ces événements. Et que ces événements m'ont permis de me reconnecter à moi, même si c'était dans la souffrance. Parce que finalement, j'étais conditionnée dans un travail qui me plaisait plus depuis des années. Mais voilà, pris dans une routine, dans une sécurité. Et ces événements m'ont mis un coup de pied aux fesses, en fait. Dans un premier temps, fait tomber à terre, c'est sûr. J'ai perdu le sens. Mais il y a eu une reconnexion à moi dans l'instant présent parce que je n'avais pas d'autre choix. C'était vraiment vital. Donc, tout le surplus, en fait, tout ce qui peut être de l'apparence ou du matériel, tout ça disparaissait parce que ça n'avait plus d'importance. Et c'est justement dans ces épreuves que j'ai reconnecté à moi. Après, qu'est-ce qui m'a aidée ? C'est surtout ce que j'enseigne aujourd'hui, en fait, la pleine conscience, la méditation. Et en fait, j'avais découvert la méditation il y a 20 ans en Asie, parce que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé en Asie. Je suis tombée voilà, en amour, vraiment. Mon premier voyage, c'était en Indonésie, Java, Bali, toutes les îles. Et j'y suis allée après tous les ans, même plusieurs fois par an. Et là-bas, il y avait une philosophie, une façon de voir la vie, la mort, l'amour, la spiritualité, qui m'a vraiment parlé et j'ai commencé en fait à pratiquer la méditation. Voilà, donc ça, ça a été ma ressource pour revenir à l'instant présent, connecter à ses sens. Quand c'est le chaos à l'extérieur, de revenir à une paix intérieure.
Donc, ce que j'entends dans ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, c'est avant ces événements que tu étais déconnectée, et en fait, c'est la vie elle-même qui est venue te reconnecter. Ça, c'est ce que j'ai compris et interprété de tes propos. Et puis, plus pratico-pratique, on va dire, la méditation a été un des outils, et d'ailleurs, c'est celui qui est au cœur de ta vie aujourd'hui, et d'ailleurs, on va en parler, qui t'a permis justement de faire ce travail pour te relever et avancer à nouveau dans la vie et construire une vie finalement qui était bien plus alignée pour toi que celle que tu avais auparavant. Est-ce que j'ai bien compris ?
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En fait, la vie poussait à travers moi, mais peut-être je ne lui laissais pas suffisamment la place. Et là, en fait, bah, elle a tellement poussé que ça m'a fait tomber. Ça m'a bousculé tellement. Tous mes repères sont tombés. Et j'ai dû aller chercher vraiment cette vie à l'intérieur, me connecter à elle. Sinon, les deux épreuves, pour rien te cacher, pour rien vous cacher, j'ai vu ma propre mort, mais la deuxième, j'y ai vraiment pensé. J'ai senti un moment que j'avais ce choix-là et j'y ai fortement pensé parce que ça n'avait plus de sens. J'avais qu'une envie, c'était d'être avec mon fils Gabriel. Et la vie, en fait, m'a finalement donné le choix. Alors, si tu restes ici, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire que de rester dans des conditionnements, vivre dans des peurs, mais vivre vraiment, te connaître et vivre.
C'est beau ce que tu dis parce que ça envoie aussi un message, je trouve, très positif pour toutes les personnes qui vivent des événements difficiles, douloureux. Moi-même, j'en ai vécu, la perte d'un être cher brutalement, tout à fait inattendu, un burn-out. Enfin, voilà, je pense qu'on vit tous des événements qui nous semblent ou que l'on vit avec beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Mais le message que tu envoies, je trouve qu'il est très positif parce qu'en gros, ce que tu dis, c'est que c'est la vie qui vient te faire tomber à terre pour te dire « Eh oh, il est temps de te réveiller, de te secouer parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. » Et je trouve que c'est très, très beau. Donc, merci Stéphanie pour ça. Comme on disait, la méditation, elle est au cœur de ta vie. Et d'ailleurs, dans ta présentation, je le disais, tu organises des retraites méditatives. D'ailleurs, vous pourrez retrouver, si vous êtes intéressé, les différents liens pour aller vous connecter avec Stéphanie. Moi, je dois dire que j'ai eu la chance de vivre un voyage méditatif sonore au mois de août dernier dans le cadre du festival Connexion que Virginie Chastel avait organisé où toi et moi, nous avions le bonheur et la joie d'intervenir. Donc, c'était juste waouh. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant aussi de parler de la méditation pour parler de reconnexion ou de connexion à soi. Donc pour toi, tout d'abord, ça veut dire quoi méditer et en quoi consiste la méditation ?
Oui, alors c'est une bonne question parce qu'on en parle énormément de la méditation et finalement, qu'est-ce que c'est ? Pour moi en tout cas, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de techniques différentes, c'est se donner un temps pour se connecter à soi et se retrouver dans l'instant présent. Voilà. Après, ça peut être une méditation silencieuse où on est juste connecté à sa respiration. Ça peut être une méditation guidée où on va libérer des choses, où on va chercher des choses dans l'inconscient pour que ça remonte. On peut aussi méditer la technique Metta Bhavana où on ouvre son cœur, on envoie de l'amour à l'ensemble de l'humanité, à soi-même, aux gens qu'on aime. Il y a plein de sortes de méditations, mais pour simplifier, moi je dirais que c'est vraiment un temps de pause pour se reconnecter à soi et revenir dans l'instant présent, le seul moment qui existe vraiment, le seul moment où on est en vie. Parce que quand on n'est pas dans l'instant présent, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Et c'est le mental, en fait, qui pilote notre vie. Donc, le seul moment où on est pleinement en vie, c'est l'instant présent. Mais malheureusement, on y est rarement. Voilà. Et on ne nous a pas appris à y être. Bien au contraire, on nous a appris à muscler notre mental et à toujours être en réflexion, à mémoriser, à organiser. Et en fait, là, c'est revenir à l'intérieur de soi, connecté à son intuition et à l'instant présent, à la présence, la vraie présence.
C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, moi, je me rappelle quand je me suis mise à la méditation, j'avais une... Alors, je m'y suis mise en 2016, justement, au moment où j'ai fait mon burn-out. Et ça a été un moment pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais envie de m'y mettre et je ne m'étais pas lancée. Je pense que c'est comme tout, en fait. Il y a toujours un bon moment pour faire les choses. Il y a le moment où c'est juste pour soi. Et en fait, j'avais une image de la méditation qui était complètement faussée, où je m'imaginais, mais certainement comme beaucoup de personnes, puisque je l'ai déjà lu dans d'autres articles aussi, où on s'imagine que méditer, c'est finalement faire complètement le vide dans sa tête. Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup font. Enfin, moi, je l'ai faite, où j'ai cru que à partir du moment où je me mettais en posture de méditation, où j'avais l'intention de méditer, où je prenais ce temps justement pour moi dans l'instant présent, eh bien, que plus rien ne se passerait. Et en fait, ça, c'est une grosse erreur. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que c'est important aussi d'avoir cette vision et cette lecture-là de la méditation.
Oui, clairement, c'est hyper important, c'est essentiel. Parce que rien que le mot, déjà, ça met une certaine pression de résultat. Alors que la méditation, c'est tout sauf ça. Il n'y a aucun résultat à atteindre. Arrêter ses pensées, c'est peut-être des Bouddhas ou des gens illuminés, mais ce n'est pas notre cas encore, en tout cas. Donc, c'est effectivement de voir que son mental ne s'arrête jamais, prendre conscience de ses pensées, mais voir que ses pensées, finalement, ce ne sont pas nous, ce n'est pas ce qui nous représente, et dompter en fait ce mental pour le mettre au service de notre cœur. Mais il n'y a aucun objectif de résultat. Si on attend quelque chose, c'est de la paix, du bien-être. On peut aller sur de la guérison aussi, de la libération, mais le but premier, c'est vraiment être en paix. Voilà. Et on parle effectivement de calmer son mental parce que juste de l'observer des fois, ça permet de le ralentir. Tout ne pas se mettre la pression et ne pas penser qu'il faut être en lotus pendant une heure. Voilà, la méditation, ça peut être très simple. Ça peut être 2 minutes le matin au réveil. Juste, on se pose, on respire, on est dans son corps, dans l'instant présent. On est déjà en méditation.
Ouais, ok. Oui, je pense que c'était important de le souligner parce que on peut avoir effectivement une vision qui est un peu tronquée ou scénarisée de la méditation. Et du coup, justement, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus sur le en quoi la méditation peut-elle nous amener à nous connecter à nous-mêmes.
Déjà, la méditation, c'est un temps que l'on s'offre à soi. Donc déjà, il y a une connexion à soi, on écoute son besoin et on y répond. Ensuite, la méditation, c'est vraiment de se connecter à l'instant présent, à notre présence. Donc là, c'est le meilleur moyen de se connecter à soi. Et ensuite, c'est le meilleur moyen aussi pour se connaître, pour s'observer, pour finalement faire la différence entre notre mental qui nous raconte malheureusement souvent des histoires en lien avec la peur, avec des alertes, et notre être véritable qui est plutôt situé, on va dire, dans notre cœur. On peut l'appeler notre moi supérieur, notre âme, notre étincelle divine, j'en sais rien, on peut donner le nom qu'on veut, mais c'est vraiment cet être profond qui a déjà toutes les réponses et qui est en fait connecté à un disque dur externe qui est le mental. Ce mental, c'est toutes les données qui ont été rentrées depuis là, notre vie sur Terre. Donc, notre éducation, tout ce qu'on a appris à l'école, les conditionnements aussi de notre société, celle dans laquelle on vit. D'ailleurs, c'est intéressant quand on va dans des pays étrangers de voir qu'on n'a pas du tout les mêmes conditionnements, les mêmes croyances. et de pouvoir juste faire de ce disque dur externe qui est notre mental un outil à notre service. Mais bien souvent, en fait, ce mental, il a pris le pouvoir. Et on croit qu'on est ces données, ce fichier, et c'est lui qui pilote notre vie. Donc déjà, la méditation va nous permettre de faire le distinguo, en fait, entre le mental et notre être, et de voir que le mental, il est fait pour être un serviteur de notre être, de notre cœur. Voilà. Donc c'est la meilleure connexion à soi, c'est vraiment connecter à son être et mettre son mental au service de notre cœur.
Et du coup, j'adhère hein, complètement, hein. Je suis totalement en phase avec ce que tu dis. Et du coup, ce qui serait intéressant pour nos auditeurs, c'est pour toi, ça veut dire quoi mettre son mental au service de son essence originelle, sa nature profonde, sa vraie nature?
J'ai fait plusieurs fois la technique Vipassana. Je sais pas, voilà, j'explique en deux mots ce que c'est. C'est une retraite méditative de 10 jours dans le silence où on fait 10 heures de méditation par jour. Et en fait, les 3 premiers jours, donc les 30 premières heures, on est connecté uniquement à notre respiration. On est concentré et attentif uniquement à notre respiration et même plus que ça, juste à une petite sensation entre le nez et la lèvre. Donc, plus ça va, plus ça s'affine. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 30 heures? Eh bien, on dompte notre mental, c'est-à-dire qu'on lui apprend tout simplement à revenir ici, concentré à ce qu'on lui demande. Et dans les enseignements de Vipassana, ils expliquent en fait que notre mental est comme un animal sauvage et il peut être dangereux en fait pour nous et pour les autres. Parce qu'on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il fait, il est juste conditionné et puis il fait ce qu'on lui a rentré comme donné. Et un animal sauvage, bah, ça se dompte en fait. Voilà, ça se dompte, pas pour, pour qu'il soit plus doux envers nous-mêmes et envers les autres. Donc là, par exemple, pour une retraite Vipassana, eh bien, on apprend à se concentrer sur une petite sensation de notre respiration. Donc, dès que notre mental s'en va dans le passé, dans le futur, on le ramène. Voilà. Donc, ça demande une intention forte, un engagement et une ferme détermination à revenir 500 fois, 1000 fois, 2000 fois par jour. Voilà. Et c'est ça, en fait, dompter son mental, c'est déjà prendre conscience qu'on a un mental qui nous emmène à droite, à gauche tout le temps. Et malheureusement, souvent, c'est de l'auto-sabotage, c'est des peurs. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, bah, c'est lui apprendre, tout simplement, comme tout ce que l'on fait dans la vie, on apprend eh bien, à le mettre à notre service, c'est-à-dire à le ramener ici, dans l'instant présent, et à faire finalement ce qu'on lui demande. Ce pourquoi il est fait à la base, mémoriser, organiser, mais pas prendre le pouvoir de notre vie et nous auto-saboter.
Ouais, c'est important ce que tu dis, effectivement, et du coup, je vais rebondir dessus parce qu'il peut y avoir cette tendance de diaboliser le mental. Et je l'ai déjà dit dans différents épisodes de podcast, pour moi, ce n'est pas ça. Diaboliser le mental, ça sert à rien. Notre mental, il est là aussi, il a son rôle à jouer, il a un rôle qui est important. Il n'est pas nécessaire de le diaboliser, au contraire, c'est ce que tu dis très bien, c'est qu'à un moment donné, il faut switcher et faire en sorte que ce ne soit plus le pilote de la voiture, hein, mais que ce soit le passager finalement et que nous, on redevienne ce pilote, enfin ce conducteur de notre véhicule. Et d'ailleurs, en Human Design, on le dit bien, hein, ce n'est pas le mental qui décide. Le mental, il a cette fonction, comme tu dis, de structurer, analyser, il permet de réfléchir, etc. Mais ce n'est pas lui qui doit être aux commandes finalement. Donc, oui, c'est important que tu mettes ces mots-là parce qu'on peut avoir cette tendance à diaboliser, à considérer que notre mental est là pour aller à l'encontre de ce que l'on veut. Mais en fait, comme tu le dis, c'est des programmes qui ont été mis en place par rapport à tout ce qu'on a vécu dans nos relations professionnelles, personnelles, l'enseignement, etc. Et en fait, finalement, c'est aussi au travers de ce que tu dis indirectement sans le dire, c'est on a une programmation, mais on est tout à fait capable finalement de se reprogrammer différemment pour justement être dans un alignement de la vie qu'on veut. Voilà, je pense que, enfin, je ne sais pas si j'ai retranscrit ce que tu voulais dire avec mes mots, mais c'était important pour moi de le souligner.
Ah oui, merci, j'adore, mais j'adore cette image de la voiture. Mais c'est exactement ça. C'est que notre mental, il est à la place du conducteur depuis des années parce qu'on nous a appris à fonctionner comme ça. Et là, en fait, ce n'est pas le diaboliser, effectivement, c'est vraiment faire ami-ami avec lui et qu'il passe en passager parce qu'il a pleinement son rôle et on a besoin de lui, mais voilà, à une autre place. Et même lui, finalement, conduire la voiture, il n'aime pas ça parce que lui, il a peur. Donc, si on lui dit « fais ci, fais ça », si on lui parle à ce mental, vraiment, là, il peut avoir toute sa puissance. C'est juste parce qu'on a inversé les rôles. Il faut dire aussi que notre monde est en pleine mutation, on est en plein éveil des consciences et que jusqu'à présent, peut-être que ça fonctionnait comme ça, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Les conditionnements qu'on a reçus depuis des millénaires ne fonctionnent plus dans la vie dans laquelle on est en ce moment et il y a besoin que chacun reprenne sa place.
Alors, tu parles d'éveil de conscience et du coup, ça me suscite une question puisque j'ai eu cet échange dans un des épisodes qui va sortir ou qui est déjà sorti, puisque je ne sais pas au moment où on enregistre cet épisode si tu passeras avant ou après d'autres personnes, mais justement était venue la question de faut-il que toutes les personnes soient éveillées en conscience? Quel est ton point de vue à toi sur cette question?
Alors, moi, je pense que chacun a son libre arbitre et qu'il y en a pour qui c'est clairement le moment. Et de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Hein, ça, la vie nous pousse à aller sur ce chemin-là. Et puis d'autres, clairement, ce n'est pas du tout le moment. Ça leur parle pas. Mais j'aime bien prendre, tu sais, l'histoire du centième singe. Tu la connais? Enfin, ce n'est même pas une histoire. Hein, c'est une expérience scientifique.
Vas-y, je te laisse en parler, mais oui, je connais effectivement.
Alors, peut-être que je vais transformer un petit peu l'expérience, hein, ça passe à travers mon filtre, mais en gros, c'est ça. Des chercheurs, en fait, étaient sur une île et ils observaient des singes. Je ne me souviens plus quel singe c'était, chimpanzé peut-être, si tu te souviens.
Non, donc, je ne me souviens plus, mais bon, c'était des singes, on va rester généraliste.
Voilà, c'était des singes et donc ils avaient des patates douces à manger. Et un jour, il y en a une qui a lavé sa patate douce parce qu'ils s'étaient recouverts de terre et de sable et elle a lavé sa patate douce. Et finalement, autour d'elle, il y en a qui ont commencé aussi à laver leur patate douce et à trouver ça meilleur et peut-être plus digeste aussi. Et en fait, ces scientifiques se sont rendus compte qu'au bout de 100 singes, eh bien, c'était toutes les îles à côté qui étaient contaminées, en fait. Tous les singes lavaient leurs patates douces en même temps, alors qu'il n'y avait aucun lien entre les îles. C'est-à-dire qu'un nombre charnière, ça bascule, c'est-à-dire qu'il paraît, hein, pour que l'éveil des consciences se fasse, bah, c'est pareil. Il y a un nombre critique qui fait que quand les gens vont être suffisamment éveillé, un nombre suffisant, eh bien, c'est toute l'humanité qui va s'éveiller en même temps et avoir des prises de conscience, en fait, comme ces singes.
Elle est toujours fascinante, cette histoire. Et puis, ça fait référence finalement à l'inconscient collectif dans ce que tu dis et qu'en fait, peu importe justement l'endroit où l'on se trouve sur Terre, il y a cette espèce de... Quand on parle d'inconscient collectif, c'est aussi la conscience suprême hein, qui est au-dessus de nous, qui finalement, peu importe, et là on fait référence à la physique quantique, c'est peu importe l'endroit où on est, ça vient impacter les autres par rapport justement à cette énergie qui se dégage. Merci, merci pour le rappel de cette histoire. Alors, au-delà de la méditation, tu utilises aussi différentes techniques parce que tu es très dans la connexion au corps, hein, Stéphanie. Connexion à soi, connexion au cœur, connexion aussi Ça passe par le corps et du coup, tu utilises différentes techniques et notamment les massages. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur justement le rapport entre le massage et la connexion à soi? Et puis, autre question, c'est quel conseil donnerais-tu en termes de technique, peut-être de massage, pour qu'une personne se fasse du bien et se reconnecte à elle-même?
Alors, oui, c'est vrai que connexion à soi, ça comprend son être véritable, faire la paix avec son mental, le mettre à son service, mais aussi être pleinement connecté à son corps, à sa santé, être vraiment incarné ici sur Terre. Et pour ça, il faut prendre soin de notre véhicule terrestre. Moi, j'ai commencé en fait quand j'ai changé de métier. Avant, j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Et donc déjà relié quand même au corps, mais pas de la façon dont moi je voyais les choses. Et quand j'ai changé de métier, j'ai commencé par de la réflexologie plantaire, par de la médecine chinoise, massage du ventre, toutes sortes de massages, massages balinés. Et puis, j'ai développé ma clientèle et puis je voyais en fait que derrière les libérations du corps, les libérations physiques, il y avait des émotions. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, je me suis formée à l'émothérapie. C'est une technique justement pour aller voir au-delà des émotions au niveau du développement personnel spirituel. Et j'ai surtout travaillé sur le ventre, parce que le ventre, c'est vraiment notre deuxième cerveau. Et c'est une technique de médecine chinoise qui est le Qinetsang. En fait, toutes les émotions qu'on n'a pas libérées sont contenues dans notre ventre, au niveau de l'intestin grêle. Voilà. Le côlon, lui, est plutôt la partie consciente et l'intestin grêle plutôt la partie inconsciente, là où se situent les nœuds émotionnels. Et dans ce massage, ce toucher énergétique, on va pouvoir écouter l'émotion, savoir ce qu'elle a à dire et la faire passer de l'inconscient à la conscience, que la personne, en fait, la libère. Parfois même, on peut savoir si c'est lié, par exemple, au poumon, c'est plus lié à une tristesse ou le foie, plus à des colères, des frustrations, et faire une libération et même des prises de conscience par rapport à l'âge à laquelle ça a été vécu, parce que nos premières cellules sont autour de notre nombril, et puis plus on grandit, en fait, plus nos émotions vont s'éloigner du nombril. Donc, c'est passionnant. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que derrière les émotions, il y avait toute une partie inconsciente. Et là, j'ai dit, ah, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? C'est pour ça que je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, l'hypnose spirituelle, l'hypnose évolutive, pour aller aussi libérer dans l'inconscient. Mais tu vois, le corps est pour moi, un accès privilégié aux émotions et à l'inconscient. Et il ne faut pas négliger le corps parce que même si on fait un travail sur l'inconscient ou sur les émotions, le corps a besoin d'un toucher spécifique pour libérer. Si on commence par le corps, peut-être qu'il y aura aussi besoin d'aller voir dans l'inconscient. Peut-être que le corps tout seul ne va pas suffire. Tout est lié en fait, mais de bien penser aussi à libérer dans le physique, dans l'énergétique. Donc, qu'est-ce que je peux conseiller aux gens? C'est vraiment d'écouter ce qui les appelle le plus. Quand on vit un moment difficile de notre vie, une contraction, c'est d'aller voir, tiens, est-ce que c'est mon corps qui me parle? Est-ce que j'ai une tension, une maladie, une douleur? Et je me sentirais plus à même ou mieux accompagnée si j'allais voir un masseur ou un ostéo, ou que ça passe par le corps. Est-ce que ma souffrance, elle est plus émotionnelle? Est-ce que ma souffrance, elle est plus quelque chose qui se répète, mais je ne sais pas pourquoi? Et d'aller voir dans l'inconscient, d'aller voir dans nos lignées, d'aller voir dans nos vies antérieures. Il y a plein de portes d'accès, mais de s'écouter, en fait. Voilà. Et moi, j'ai été, et je le suis encore, suivie par de nombreux thérapeutes. Et voilà, je jongle avec tout ça. Mais c'est important, je crois, de se faire accompagner. Parce que parfois, on n'arrive pas à se libérer tout seul.
C'est vrai que c'est important ce que tu dis. Ça demande à chacun de prendre la décision de se faire accompagner. Déjà, de prendre la décision de ne plus rester avec sa souffrance et donc d'aller la dépasser et d'en faire finalement quelque chose de plus positif pour soi. Ça, c'est une première étape. Et puis, la deuxième étape, quelquefois, c'est quand on n'arrive pas à le faire soi-même, eh bien, c'est effectivement de faire un appel à une aide extérieure, donc un thérapeute, un coach, que sais-je, enfin, ce qui finalement nous parle à ce moment-là de notre vie et de l'instant où on a décidé qu'il fallait, pour nous, que c'était important d'aller au-delà de cette souffrance ou de ce mal-être stagnant. Parce que tu fais référence aussi par rapport au massage, ça me fait penser aussi à la psycho-énergétique qui a été très développée au travers des livres de Michel Odoul. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Tu as aussi, et parce que t'es, je rappelle, hein, tu es quand même manifesting générateur, donc tu es une multipassionnée, tu as plein de casquettes, etc. Et en fait, dans ta pratique, tu utilises aussi le son. Mais le son, pas que le son d'outils, mais aussi le son de ta voix, hein, parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de partager ce moment de voyage sonore qui passe par le son d'instrument, mais aussi le son de la voix. Est-ce que tu peux nous, toujours hein, avec ce rapport de la connexion à soi, comment le son peut nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes?
Ouais, le son est extrêmement puissant parce que le son est vibration et il va aller en fait dans toutes les directions. Et s'il y a une résistance, un nœud, en fait, il va frapper dessus et petit à petit le libérer. Donc, même si c'est des choses inconscientes, le son va libérer. C'est une aide extraordinaire. Donc, il y a le son effectivement de la voix parlée ou la voix chantée, et puis les instruments qui peuvent jouer aussi sur l'émotionnel, hein, ça joue beaucoup sur l'émotionnel, mais c'est surtout la vibration qui est différente d'un instrument à un autre et qui va dénouer des choses différentes. Voilà. Donc parfois, même consciemment, quand on est dans cette méditation, ce voyage sonore, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais il y a des choses qui se libèrent. Et ça peut être émotionnel, ça peut être des visions, ça peut... c'est vraiment très, très varié, mais je trouve ça extrêmement puissant. Donc, j'utilise en soins individuels, mais aussi en soins collectifs, et des bols de cristal, des tambours, des carillons, voilà. Et chacun a sa propre vibration. Donc, ça va nous permettre, comme tu dis, de se reconnecter à soi, parce que la vibration de l'instrument va venir s'infiltrer en nous, puisqu'on n'est aussi que de l'énergie, finalement, à 99,999%. Et en fait, nos deux vibrations vont se mélanger et ça va libérer les nœuds, les barrages, les résistances. Voilà. Donc, il y a une transformation qui se fait grâce au son. Les bols de cristal, par exemple, le son est tellement pur que ça va rentrer vraiment de manière très subtile. Et c'est magique, quoi.
J'ai envie de parler de mon expérience aussi, de ce voyage que j'ai pu vivre avec toi et avec ton compagnon Dominique, hein, qui était présent. Et puis de mon expérience au travers aussi du chant dans le cadre des cours de yoga que j'ai suivis. En fait, dans le cadre du voyage méditatif, vous avez utilisé les bols de cristal, vous avez aussi utilisé le tambour. Et moi, ce que j'ai pu vivre, parce que ça appelle aussi dans ces cas-là à s'observer soi-même dans l'instant où tu vis ce voyage sonore, c'est que chaque son, chaque vibration sonore me renvoyait à une émotion qui était différente. Je sais que le tambour chamanique, c'est quelque chose de tellement puissant que ça me procure une sensation qui est une sensation de bonheur. Voilà, ça ne s'explique pas, c'est mon ressenti, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. C'est à un moment donné, ça monte de mes tripes et ça m'envoie cette joie, ce moment de bonheur. Voilà, pour moi, le tambour, c'est ça. Après, il y a tous ces sons avec les petites clochette ou le bol tibétain ou les cristaux qui m'envoient d'autres émotions, mais c'est vraiment, je trouve que le son, il a un impact sur nous quand on y prête attention, justement, parce que c'est important aussi de pas juste entendre ce qui se passe, mais c'est entendre, écouter, observer finalement ce que ça peut amener. Voilà, donc moi, ça a été une expérience hyper enrichissante, mais aussi pleine d'émotions, de joie, de bonheur, d'être dans cet instant-là. Et puis, les chants des mantras en yoga, ça, ça a été une expérience extraordinaire que j'avais vécue avec mon professeur de yoga. C'est encore une autre façon de vivre le son, puisqu'en fait, c'est un son qui sort de notre bouche, mais qui est à l'intérieur de notre corps. Et en fait, j'ai gardé cette habitude. De temps en temps, je mets les musiques dans la voiture et je chante. Et ça apporte aussi un bien-être. Je trouve que ça amène à dégager un bien-être, une sérénité, du calme, la paix. Et par rapport au terme de la connexion à soi, je trouve que c'est tout à fait à propos. Est-ce que toi, comment toi tu les vis tous ces moments-là? Et est-ce que tu as eu des témoignages de personnes qui t'ont partagé comment elles vivaient et ce que ça leur avait procuré, cette résonance au son?
Merci déjà, merci Katia pour ton partage, c'est toujours très riche pour nous. Oui, il y a vraiment des retours qui sont variés. Le tambour, il fait vraiment des choses incroyables. J'ai l'impression, tu parles toi dans tes entrailles, hein, tu disais, ça nous reconnecte à nos racines profondes, à une connexion à la terre, à nos ancêtres, à nos lignées, peut-être à nos vies antérieures. Je sais pas, il y a vraiment, il est là pour ça d'ailleurs, hein, pour nous reconnecter à notre être profond, mais dans nos racines, dans notre connexion à la terre. Donc, toi, ça t'a amené de la joie. Pour d'autres, des fois, ça vient remuer vraiment des choses. Hein, c'est pas toujours agréable. C'est vrai que les bols de cristal ont ce son cristallin qui nous élève plutôt et vont plutôt nous relier au divin, on va dire. Voilà, donc chaque instrument va avoir un impact, on va dire, d'une manière générale, mais aussi individuelle, en fonction de notre vécu. Pour le chant, oui, il y a le chant qu'on entend, donc la voix de ceux qui chantent. On fait avec Dominique des chants intuitifs, donc on laisse le chant passer à travers nous pour vraiment l'offrir à la personne qui est en face de nous, en soins individuels. Et puis en collectif, c'est encore autre chose. Donc la personne reçoit un message sonore, un message vibratoire, donc ça a vraiment un impact sur elle. Et puis, il y a le son que les gens font quand on fait des retraites méditatives, des mantras, effectivement. On a une shruti box, c'est d'ailleurs indien, hein, on chante les mantras sur une shruti box. Et en fait, la shruti box va donner des sons qui vont permettre de sortir ces sons, parce que ça va couvrir un peu notre voix quand on n'ose pas chanter. Et on adore faire ça, et les gens adorent faire ça aussi, parce qu'on va tenir par exemple une voyelle, et en fait on sent que ça libère une partie du corps. Donc on appelle ça les chakras en yoga, mais en fait c'est vraiment des parties différentes du corps, et la voyelle associée à une note du shruti box, de la shruti box, ça ouvre, ça harmonise, ça libère, ça a un impact incroyable. D'entendre chanter, mais de chanter soi-même, d'oser libérer sa voix, ça, c'est une forte connexion à soi. Moi, je recommande vraiment à tout le monde d'oser, même si c'est dans la voiture. La voiture, c'est génial pour ça. Personne ne nous entend, on peut mettre un peu fort et de se mettre des mantras. De se mettre des mantras je sais pas moi, Shiva Shambho par exemple, mais ça met en joie, ça allume notre feu intérieur, et Shiva Shambho, ou Ganesh, et puis c'est des textes sacrés en sanskrit, mais il y a la vibration de chaque mot aussi.
Ouais, tout à fait. En fait, quand tu disais il faut oser chanter, et c'est vrai que je me souviens la première fois que le professeur de yoga nous a dit on va faire un chantier. On s'est toutes et tous regardés dans le coin en se disant oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire là, on va tous chanter. Et en fait, il y avait cette retenue qu'on avait la toute première fois, et je peux te dire qu'entre la première fois et les suivantes, il y a eu un truc qui s'est complètement libéré, où en fait tu te moques finalement, et c'est le chemin hein, que tu prends quand tu fais du yoga, c'est qu'à un moment donné, tu dépasses le regard de l'autre, tu le fais pour toi, dans ton intériorité, et en fait, tu ressens tellement le bien-être que ça te procure, qu'à la rigueur, ben, peu importe que tu aies bien mal chanté, en fait, tu ne te poses même pas la question, puisque ta seule et unique intention, c'était de porter ta voix. Et je trouve que c'est tellement puissant. Et effectivement, moi, je garde, alors j'ai toujours aimé chanter, même si je sais que je ne suis pas une chanteuse dans l'âme, hein. J'ai jamais travaillé ma voix, etc. Mais quand il y a des moments où je ne suis pas en forme, où je suis un peu down, eh ben, soit des mantras, soit d'autres chansons que tu chantes, je trouve que ça te met dans une énergie qui est une bonne énergie et qui t'amène finalement à remonter sur l'échelle des émotions. Est-ce que tu partages ça?
Ah oui, clairement. Moi, chanter, danser, ouais, voilà. Si j'ai besoin de me remettre en énergie, ouais, j'ai quelques musiques, que ce soit des mantras ou pas, mais ouais, chanter, danser, bah, déjà bouger aussi son corps et puis oser se libérer, oser montrer qui l'on est. Ah ouais, j'adore. Et puis, il y a la puissance du groupe aussi quand on chante. Comme ça, en groupe, on est porté par le groupe. Quand j'étais en Inde, là, on chantait avec Tom, qui, lui, a travaillé sa voix depuis qu'il a 5 ans. Il a une voix d'ange et il connaît tous les mantras par cœur et tout ça. Quand, ouais, moi, je savais que j'avais pas la voix que lui avait, mais je me lâchais parce qu'en plus, j'étais accompagnée par sa belle voix. Donc, j'osais vraiment ouais, libérer ça. Et c'est extrêmement puissant en groupe.
Ouais, c'est clair, je partage complètement. Pour l'avoir vécu en groupe et du coup, le vivre en individuel, quand je me lance sous la douche ou plus souvent dans la voiture, c'est pas du tout la même chose, effectivement. Du coup, quel conseil, toi, tu pourrais donner à une personne qui souhaite retrouver ou qui souhaite donner un souffle à sa vie?
Bah déjà, si c'est un moment difficile en fait où la personne a perdu le sens, c'est vraiment d'accepter sa vulnérabilité, que c'est vraiment une force de reconnaître sa vulnérabilité, qu'on traverse une épreuve, un moment difficile, mais que cela aussi changera puisque tout change, mais d'accepter ce moment où on peut poser un genou à terre, se montrer fragile, vulnérable et partager cette vulnérabilité. Oser demander de l'aide et ensuite seulement, c'est de changer son regard sur la situation, sur l'événement, voir le cadeau qu'il y a derrière, le fameux cadeau mal emballé, ben, oser le déballer parce que c'est toujours une reconnexion à soi et à qui l'on est vraiment. La vie, je te disais tout à l'heure, m'a poussé, m'a fait tomber, m'a mis un genou à terre. Mais pas pour me faire souffrir, pour que je me rappelle qui je suis. Donc, quand on est un genou à terre, ben, déjà de rester un genou à terre et de dire, OK, j'accueille que je suis dans un moment vulnérable. Et ensuite, dire, tiens, qu'est-ce que la vie a voulu me faire comprendre dans cet événement? Et qu'est-ce que j'ai finalement à découvrir de moi, à peut-être changer ma vision des choses? Et regarder finalement quel est le cadeau, même si le cadeau, on le voit parfois des semaines, des mois, des années après, mais oser regarder le cadeau de notre transformation. C'est vraiment ça. Est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que tu veux un peu plus de...
Non, c'est OK pour moi. Si tu n'as rien à ajouter, c'est OK pour moi. Merci, merci pour ces éléments. Merci déjà pour tout ce que tu nous as partagé. Alors, avant qu'on aille à la conclusion de cet épisode de podcast, moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'association Gabrielle. Parce que je pense qu'elle apporte beaucoup de choses. Et du coup, j'aimerais que tu nous dises un petit peu, ben, quel est le travail de l'association Gabrielle et comment on peut soutenir, si on le souhaite, cette association. Allez, je te rajoute une troisième question. Quels sont les projets actuellement de l'association, s'il y en a, et s'il y en a qui sont déjà en cours ou futurs programmés?
Alors, merci déjà pour ce beau cadeau. Donc, l'association Gabrielle soutient des enfants orphelins depuis 10 ans maintenant en Inde et au Vietnam. Donc, dans les orphelinats, mais aussi enfants des rues, des bidonvilles, des villages flottants. Ça a été mon travail pendant 10 ans. Et puis, c'est vrai qu'avec l'arrivée du Covid, bah, moi, je suis rentrée déjà d'Inde en France. Et l'association est en train de renaître. Voilà. Donc, il y a toujours un soutien auprès des enfants là-bas. Mais c'est vrai que moi, je n'y suis pas encore retournée sur place. Et là, il y a quelque chose qui nous appelle aussi avec les enfants en France. Donc, c'est de mettre au service la pleine conscience, la méditation pour les enfants ici en France. Bien sûr, comme c'est l'association Gabriel et que ça parle de mon lien à Gabriel, c'est d'aider aussi les parents qui ont vécu la même chose que moi ou qui vivent la même chose que moi, donc aider sur le deuil périnatal. Et puis le gros projet qu'on a donc avec mon conjoint qui fait partie de l'association, c'est une ferme thérapeutique. Voilà, donc là, on a besoin effectivement de dons, on a besoin d'aide. Une ferme thérapeutique, en fait, c'est cette maison du bonheur pour accueillir des enfants avec des animaux et proposer en fait des ateliers de reconnexion à soi, hein, et puis aussi des ateliers avec les parents pour mieux communiquer, pour justement mieux vivre cet éveil. Et les animaux ont toute leur place dans ce projet.
Super, oui, c'est un très 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 beau projet, effectivement, cette ferme thérapeutique. Donc parlez donc, parce que de toute façon, l'association Gabriel est une association loi 1901. Donc le seul moyen finalement qu'elle a de vivre et de se développer, c'est par les dons de chacun. Des entreprises, potentiellement, s'il y a des entreprises ou des dirigeants d'entreprises qui nous écoutent et qui ont envie de soutenir l'association, vous êtes les bienvenus. Et puis aussi les particuliers. De toute façon, je mettrai tes liens pour que les personnes puissent se connecter à toi et puissent aller voir aussi ce que tu fais avec l'association. Il y a ton site internet, il y a tes réseaux sociaux. Donc, je mettrai tout ça dans la description de cet épisode. Ben moi, je te remercie pour tous ces beaux moments de partage, pour cet instant présent qui a été passionnant. Est-ce qu'avant de conclure, tu as envie de partager un message à nos auditeurs, de dire un dernier mot? Qu'est-ce que tu as envie de leur donner?
Moi, j'ai trois mots, en fait, qui résument bien, trois piliers, on va dire, qui m'aident au quotidien. C'est accueil, aime, ose. Et c'est un peu ce qu'on a partagé aujourd'hui. Donc, accueil, c'est accueille pleinement ce que la vie met sur ton chemin, même les cadeaux mal emballés. Aime, apprends à te reconnecter à toi, à t'aimer pleinement, à du coup mieux aimer les autres, aimer la vie. Et ose être pleinement toi-même. Ose aller voir à l'intérieur de toi pour savoir qui tu es. Ose te déployer, ose te montrer, ose briller, ose sortir de ta zone de confort. Voilà, donc accueil, aime, ose. Et presque ces derniers temps, j'aurais envie de rajouter remercie. Voilà, et c'est ce que je fais aujourd'hui en te remerciant, Katia, parce que c'est grâce à nos échanges aussi qu'on grandit ensemble et puis qu'on inspire, j'espère, ceux qui nous écouteront. Voilà, donc accueil, aime, ose, remercie.
Merci Stéphanie. Moi aussi, je te remercie chaleureusement pour le temps que tu nous as partagé, toutes ces beaux messages que tu nous as donnés. Voilà, j'ai qu'un mot, merci aussi. Je pense que c'est un mot qui est vraiment magnifique, merci. Et puis toute la gratitude qu'il y a derrière, qui se dégage. Donc, merci à toi. Moi, je te souhaite belle continuation dans tous tes beaux projets. Notre chemin ensemble n'est pas terminé, j'en suis convaincue. Et puis, on sera amené à rééchanger certainement sur ce podcast ou ailleurs sur d'autres sujets. En attendant, je te remercie, je te souhaite une belle continuation. Et puis, vous retrouverez de toute façon tous les liens pour aller voir ce que vous propose Stéphanie, ces belles retraites qu'elle vous propose, et puis tous ces soins énergétiques dans la barre de description. Merci Stéphanie, à bientôt.
Merci. Belle continuation à toi et à vous tous. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager, à t'abonner gratuitement au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si Si tu apprécies mon travail au travers de cette émission, je t'invite à l'évaluer en laissant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça te prendra à peine 2 secondes. Tu peux également m'adresser un commentaire via un message privé sur mes réseaux. L'ensemble des liens sont dans la barre de description de cet épisode. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite. En attendant, je te souhaite une belle journée et prends bien soin de toi.